RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC. L'Intégral Tour continue comme tous les soirs pendant ce Tour de France jusqu'à 21h. Saint-Pé-sur-Nivelle, Espelette demain contre la montre de 31 km avant l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées lors d'une étape de 116 km en région parisienne entre Houille dans les Yvelines donc et les Champs-Élysées dans le cœur de Paris. 20h05 sur RMC, l'heure d'accueillir Lucho et Bourgui qui sont là. Messieurs, bonsoir.
Salut.
Salut.
Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Bah oui, ça va et toi, Lucho?
Ça va.
Bon.
Heureux, mon Bourgui.
Est-ce que vous avez apprécié le spectacle du jour, offert notamment par Primoz Roglic qui s'est imposé lors de la 19e étape entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et Larens dans les Pyrénées-Atlantiques. Primoz Roglic qui a livré véritablement un récital dans la descente du col d'Aubisque pour s'imposer tout en bas. Franchement, c'était du très grand art. Il a mis la pression à tout le monde et il a fini par s'échapper, par s'en aller devant tous les meilleurs.
Oui, ah, oui. Mais il n'y a pas que dans la descente.
Oui, il n'y a pas que dans la descente.
Col,
mais...
Sur le sommet du col, il relance dommage. Sa machine, il revient, il contre et il se met devant pour faire toute la descente. Et c'est sûr que tout le monde était dans la roue, mais à quelques longueurs. Donc on voit le spécialiste de la descente. Et puis il était non seulement adroit, mais il est en grande forme parce que on peut pas faire une descente comme ça si on est un peu à fond. Ouais.
Il a mis une pression de dingue effectivement à ses compagnons, j'allais dire d'échapper, non, au gros bras du peloton tout simplement qui était juste derrière lui. Il a fini par s'imposer avec 19 secondes d'avance sur celui qui est ce soir toujours maillot jaune et plus que jamais en lice pour remporter son premier Tour de France, Geraint Thomas, 19 secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Romain Bardet, le français, a terminé 3e. Il profite d'une grosse défaillance de Nairo Quintana aujourd'hui, Romain Bardet, pour s'emparer de la 7e place au classement général. Alors, petite modification, Geraint Thomas donc est toujours maillot jaune. Tom Dumoulin a perdu un petit peu de temps au jeu des bonifications puisqu'il est désormais deuxième à 2 minutes 05. Primoz Roglic s'empare de la 3e place sur le podium de Slovène à 2 minutes 24. Et c'est Christopher Froome qui en fait les frais puisqu'il est 4e à 2:37. Bourgui, Lucho, on parlait un petit peu de la théorie du complot là ces deux derniers jours autour de Froome. A-t-il laissé finalement, on a bien vu aujourd'hui, ou alors c'est vraiment un comédien qui devrait être embauché par Clint Eastwood. On a vu que Christopher Froome, il faisait pas la comédie là, clairement.
Non.
Donc on le sent depuis le début du tour qu'il est moins bien.
Jours.
Bon, c'est vrai qu'il a fait illusion dans l'Alpe d'Huez où il est revenu, il s'est accroché, mais c'est pas le Chris Froome de l'année dernière ou des 4 dernières années.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour Christopher Froome justement? C'est l'enchaînement, parce que faut rappeler quand même qu'il restait sur trois victoires lors des trois derniers grands tours, à savoir Tour de France 2017, Tour d'Espagne 2017 et Tour d'Italie 2018. C'est quoi? C'est un trop plein à un moment d'enchaînement ou c'est tout d'un coup on est moins bon?
C'est la galère de neuf mois de galère de prise de tête entre l'UCI, ses avocats, à savoir s'il était autour, s'il ne venait pas. On a vu sur le Giro, il a gagné le Giro sur deux jours. Autrement, il était pas bien. Il était vraiment pas bien. Il s'est surpassé ces deux journées et ça lui a permis de gagner le Giro. Mais sur l'ensemble du Giro, on n'a rien vu d'exceptionnel, à part cette grande journée de 80 km devant pour aller chercher le maillot. Là, il a fait une journée.
Et c'est un petit peu ce qu'il semble payer aujourd'hui, Christopher Froome, donc voilà, qui a priori, ne sera même pas sur le podium de ce Tour de France, même s'il y a quand même assez peu de secondes finalement d'écart entre Christopher Froome et Primoz Roglic pour cette troisième place. Messieurs, on continue à parler de vélo dans un instant, mais détour par nos terrains de Ligue 2. Et oui, c'est parti, la saison de football qui démarre tambour battant, notamment pour Valenciennes, Ligue 2, donc deuxième étage, antichambre de la Ligue 1, tout simplement. Benoît Boutron, 8 rencontres se dérouleront en ce moment.
Effectivement, et deux buts marqués par Valenciennes, qui mène déjà 2-0 contre la JOCR, 0-0 sur toutes les autres pelouses. Le premier buteur de Valenciennes, c'était Laurent Dos Santos. Le deuxième but vient d'être marqué. On va vous donner le nom du buteur dans quelques secondes. C'est Gaëtan Robaille qui inscrit ce deuxième but pour Valenciennes. Je vous rappelle juste les affiches de la soirée: Orléans-Lens, Grenoble-Sochaux, AC Ajaccio 3, Clermont-Châteauroux, Red Star Niort, Gazélec-Ajaccio, Ajaccio, Paris FC et Nancy-Béziers. Et donc 2-0 déjà pour Valenciennes contre l'Agios.
Comment ça se passe au stade de la Source à Orléans?
Ça se passe bien, match équilibré entre l'USO et l'URC Lens.
Allez, 20h09, l'intégral tour qui évidemment consacre une large partie ce soir au vélo. On est en ligne justement, Lucho et Bourgui, avec Jérôme Cousin qui est coureur de la Direct Énergie. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous en direct sur RMC. Un petit mot d'abord sur l'étape du jour. Bon, on a laissé tranquillement les choses se dérouler devant. Vous avez terminé, je crois, au-delà de la 100e place à plus de 32 minutes. C'était anecdotique. Elle était vraiment dure, cette étape, ou pas?
C'était une belle étape. On a traversé des beaux paysages. Je reviendrai m'entraîner dans le coin, moi, je pense.
C'est vrai?
Non, franchement, c'était magnifique. Non, on a essayé de prendre l'échappée après. C'était pas nos bonnes cartes devant. Ce qu'on voulait, c'était surtout prendre du plaisir aujourd'hui, parce qu'on savait très bien que sur un résultat final, on était dépassé par les gros leaders. On voulait surtout prendre du plaisir. Donc voilà.
Mmh. Vous achevez dans quelques heures maintenant, dans un petit peu moins de 48 heures, votre troisième Tour de France. Comment vous l'avez vécu justement ce Tour de France globalement?
Très bien, moi c'est justement ce que je disais tout à l'heure avec Jean-René, le staff. Moi c'est mon meilleur Tour de France pour l'instant. C'est un Tour de France qu'on a démarré en Vendée sur nos terres, donc déjà c'était beaucoup de plaisir. Après on a traversé ma région, la Loire-Atlantique. On a fini sur une étape la première semaine sur une belle étape de pavé, donc c'était agréable. Et puis après, on a traversé le massif des Alpes et des Pyrénées sur des beaux parcours, des beaux tracés. Et puis je pense que il y a eu de la course. Et après, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'avant de la course chaque jour. Il y avait beaucoup de supporters, donc c'était beaucoup de plaisir.
Quand vous parlez de Jean-René, c'est évidemment Jean-René Bernodeau, manager emblématique de votre équipe Direct Énergie. Vous aviez remporté la cinquième étape de Paris-Nice cette année. Est-ce que c'est un petit regret? Alors évidemment, c'est pas fini, mais bon, c'est vrai que bon, demain le contre-la-montre, ça sera clairement pas votre avantage. Et les Champs-Élysées dimanche, on sait qu'en général, c'est quand même réservé aux gros bras du sprint, à de très rares exceptions près. Comment vous le vivez justement de pas avoir remporté d'étape? C'était un objectif, j'imagine, majeur pour vous, pour toute votre équipe d'ailleurs. Et ça n'a pas été rempli, ça vous laisse beaucoup de regrets?
À titre personnel, forcément, il faut se pointer sur le Tour de France en rêvant d'essayer de gagner une étape. Tout coureur qui arrive là sans objectif, ça serait pas digne du Tour de France. Après, moi, je suis surtout là pour épauler mes coéquipiers, essayer d'aller de l'avant. Et puis, je fais ce que je sais faire le mieux, c'est essayer de saisir les opportunités quand elles se présentent à moi. Mon regret, c'est quand même la boule d'être pris à 1 km. Il m'en restait pas mal dans les jambes, et ce final, en le négociant un peu mieux, je pense qu'on aurait pu aller au bout. Donc ça c'est mon regret. Je pense que là, cette victoire, j'aurais pu passer la ligne en premier ce jour-là. Après, les étapes de montagne, je suis pas le meilleur en montagne. Je sais que je peux pas gagner à la pédale. Au sprint, c'est pareil. Hier, j'ai voulu rigoler pour essayer d'aller. Essayer d'aller faire le sprint, je finis 23e, voilà. Donc voilà, c'est les coureurs de mon type, de mon gabarit, les baroudeurs, il faut prendre le taureau par les cornes, essayer d'aller de l'avant.
Mais vous faites partie de ces coureurs justement que le public français adore. C'est pas Lucho et Bourgui qui me diront le contraire. Vous avez passé, si j'ai bien compté, 638 kilomètres en tête, ce qui fait de vous tout simplement le coureur du peloton qui a passé le plus de kilomètres en tête. Ça vous procure quoi justement comme émotion, vous, d'être en tête, au-delà du fait de se dire on va peut-être gagner l'étape du jour? Ça procure quelque chose de particulier?
Honnêtement, je me projette pas à l'avant pour essayer de cumuler des kilomètres dans le journal L'Équipe ou qu'on parle de moi comme un coureur qui fait des kilomètres échappés. C'est vraiment quelque chose que j'ai horreur. Moi, quand je vais à l'avant, c'est qu'il y a un objectif sportif, qu'il soit personnel ou collectif. C'est pas aller faire des kilomètres pour faire des kilomètres et passer à la télé, quoi. Donc après, bien sûr, quand en Vendée, j'ai loupé le maillot à poids. J'ai fait une grosse connerie. J'avais pas bien analysé la bosse. Mais bon, ma journée, finalement, il faut essayer de retenir du positif. J'ai fait du vélo devant un public fantastique en Vendée. Donc c'est sûr que quand on est à l'avant, on prend du plaisir. Mais le but, c'est pas de passer des kilomètres échappés pour être échappé, quoi.
Oui, je comprends bien, je comprends bien. Un petit mot de vos copains de la Direct Energy, de vos coéquipiers. On avait vu Lilian Calmejean notamment très très affecté à l'arrivée il y a quelques jours de l'étape de Carcassonne. Il a pu récupérer. C'est quelque chose que vous avez digéré vous du côté de l'équipe. J'imagine que ça a été assez assez dur. Lui qui avait été en position pourquoi pas de s'imposer ce jour-là sur ces terres.
Après, Lilian, c'est quelqu'un d'émotif. Il annonce ses objectifs et c'est vrai que bon, tout ce que quelqu'un qui ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il a été impatient, il a montré certaines faiblesses de son caractère et il était chez lui à domicile. Donc, il a de quoi nourrir des regrets, mais je pense que voilà, l'étape elle est digérée, c'est parce qu'il a une grosse pression tout seul pour essayer de faire bonne figure et puis de se faire plaisir devant ses supporters. Mmh, mmh.
Merci Jérôme Cousin d'avoir été en direct sur RMC.
Merci à vous.
Et bonne soirée, à vous et bonne fin de tour à toute votre équipe Direct Énergie.
Avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. Simplifiez-vous l'énergie.
Voilà, Lucho Borghi, effectivement, Jérôme Cousin qui nous avait régalé sur Paris-Nice lors de la cinquième étape qui, a priori, ne remportera pas, il en a bien conscience, d'étape sur ce Tour de France. On va revenir, si vous le voulez bien, à la lutte pour le classement général. Tiens, juste une question, puisqu'on parle de Primoz Roglic, je suis pas sûr que le grand public encore identifie tellement qui est ce coureur. Faut rappeler que Primoz Roglic a 29 ans, donc il est déjà bien dans la force de l'âge, et c'est un ancien champion de saut à ski, hein, Primoz Roglic. Il a fait la bascule entre le saut à ski sport d'hiver où l'on vole avec des skis à plus de 100 mètres et le vélo. C'est quand même assez incroyable. Et en tout cas, aujourd'hui, on peut se demander légitimement si on va pas en manger pendant quelques années de Primoz Roglic. Hein.
Ben oui, parce qu'il sait descendre, grimper, rouler. Il y a que le sprint, oui, mais on n'a pas besoin de gagner des sprints pour gagner un tour. Mmh. Donc non, il a gagné de grandes et belles courses par étapes déjà à son âge. Il a vite appris parce qu'il est passé du saut à ski au vélo très rapidement et très rapidement il s'est mis dans la peau d'un leader et d'un gagneur.
Qui est séduit toi Lucho par ce genre de coureur finalement qui ne peut compter un palmarès que depuis quelques années, hein, depuis 4 ou 5 saisons à peine, hein, dans le vélo professionnel. Lucho? Ah ben on a perdu Lucho.
Bon, perdu Lucho.
Ouais, on va essayer de le retrouver dans quelques instants. Luc Leblanc qui nous a fait faux bond. Bourguil.
Arnaud.
Oui.
Je voulais rebondir parce que Jérôme.
Oui, Jérôme Cousin.
Cousin qui disait qu'il ne se lançait pas dans une échappée pour faire de la télé. Ben oui, parce qu'on a l'impression à écouter certaines personnes que
c'est l'échappée publicitaire.
Qui prennent la première échappée ne font que du publicitaire. Mais non, on se lance pas dans une grande aventure, quelle que soit la distance, en se disant bon ben on va prendre de la télé et puis après on va se faire revoir. On a toujours dans la tête une grosse et une envie de gagner. Après c'est vrai qu'il y a des circonstances de course qui font que il y a des coups, c'est peu probable, mais on a vu par le passé des coureurs qui ont gagné de grandes et belles courses en faisant la première échappée et des échappées à long cours. Pour pas le citer, Jackie Durand qui disait « ça paiera ». Et oui, ça a payé de temps en temps. Ça paye très peu, mais des fois ça paye.
Et toi Lucho, tu te lançais pas pour rien dans les échappées, hein?
Là, là ça a coupé hein, chez moi.
On parlait des échappées parce que Jérôme Cousin de la Direct Energy nous rappelait avec justesse qu'on s'échappait pas à l'avant juste pour montrer le maillot, qui avait forcément cet objectif de la gagne. Et ça a fait réagir Thierry qui effectivement nous disait, Thierry Bourguignon il y a quelques instants, ça peut paraître complètement une évidence, mais effectivement les coureurs ils ont envie de s'échapper avant tout pour gagner. Ils sont là pour gagner des étapes, et c'est ce que je te lançais là-dessus, je rebondissais là-dessus en te disant que toi tu t'échappais pas pour rien.
Oui, je me plantais hein, aussi. Hein.
Ah bah,
oui.
Tu te plantais, mais en tout cas, tu y allais pour cet objectif, effectivement.
On y allait pour gagner, quoi. On n'avait pas dans notre état d'esprit d'aller devant pour faire de la pub spécialement pour notre partenaire, quoi. Hein. Voilà, on attaquait, c'est vrai, de loin, comme le font les coureurs aujourd'hui. C'est vrai que quand ils attaquent, ils pensent pas du tout à la pub qu'ils peuvent faire éventuellement pour leur partenaire sur le tour. Donc eux, ce qu'ils pensent, pensent dans leur tête, c'est jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout, quoi. Il y a la gagne qui est en jeu, la gagne est au bout, mais après, bon, ben voilà, tu sais comment ça se passe, hein, sur le tour. Bon, sur d'autres courses, c'est peut-être pas forcément la même chose que le tour. Des fois, ça va peut-être plus au bout que certaines échappées sur le Tour de France, mais c'est vrai que c'est bon, c'est des risques. Hein. Mmh. Mais de toute façon, les coureurs à la pédale, il y en a certains qui savent très bien que s'ils ne partent pas dès le départ, qu'ils prennent pas une échappée dès le départ, à la pédale, ils sont peut-être moins forts que les autres et ils ont moins de risques de gagner une étape. Hein.
Philippe est avec nous au 32-16. Salut Philippe.
Oui, bonjour.
Oui, tu voulais revenir, je crois, sur l'étape du jour que tu as particulièrement appréciée, si je comprends bien.
Ah bah c'est la première, hein, depuis le début,
bah,
depuis qu'il était temps.
Fallait attendre.
Bah fallait attendre la fin du tour.
C'est pas toi qui nous a dit un soir, je vais arrêter de regarder le tour cette année. Non, c'est pas toi.
Non, c'est pas lui.
Si, mais il y en a plein.
Si. Ah, ouais, il semblait bien. Tu vois, je reconnaissais ta voix un peu.
Oui.
Alors, tu as suivi mon conseil et tu es resté devant les étapes.
Non, pour Guy, parce que des fois j'ai dormi quand même.
Ah bah oui,
non, mais ça c'est le jeu.
Ça fait partie.
Ça fait partie.
Bourguet et Lucho, ils dorment plus qu'il ne faut. Hein. T'inquiète pas, devant l'étape.
Il y a des étapes en bois, entre parenthèses.
Oui, vraiment en bois. Oui.
Bon. Comme par exemple Valence.
Même en carton.
Bourgoisin Valence, bon, c'est pas exceptionnel.
Elle restera pas sur les tablettes, celle-là. Philippe, du coup, cette étape, t'as particulièrement plu.
Ouais, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors après, je l'ai pas entendu dans les commentaires à la télévision. Je sais pas, il y avait autre chose à faire. Devant, t'avais quand même un truc significatif, t'avais des purs grimpeurs. Pendant toute la course, quoi, 90 de l'arrivée, ils ont démarré, Bardet, Landa, etc., des purs grimpeurs. Mmh. Et finalement, au bout du bout, qu'est-ce qui gagne? C'est que des rouleurs. Et qu'est-ce qui est en tête du Tour de France? C'est que des rouleurs.
Ah oui.
C'est-à-dire des mecs qui lissent leur effort.
Roglic, il a gagné le Tour du Pays Basque, il gagne le Tour de Slovénie, il doit faire deux au Tour de Romandie, et je peux te dire que le Tour de Romandie, c'est pas des côtes de 5
km,
c'est des grands cols.
Oui, on est d'accord.
Donc c'est des grimpeurs quand même, sinon il n'aurait jamais.
Bon, Quintana, c'est un pur grimpeur, alors on va dire qu'il est tombé. On va dire qu'il a shooté, d'accord.
Oui.
Bon, admettons. Mais bon, il a pas été extrêmement brillant non plus. Il y a personne qui a vraiment mis le feu dans l'école. C'est des mecs, c'est des mecs puissants qui sont pas des démarreurs, qui mettent pas d'à-coups. Dumoulin, c'est quand même plutôt un profil de gars qui lisse son effort. C'est le seul qui a essayé de secouer Geraint Thomas et Froome.
Roglic aussi.
Enfin, eux deux, entre parenthèses, leur équipe, ils ont couru comme des cons. Ils ont eu de la chance de gagner, mais franchement, ils ont fait n'importe quoi.
Mais Chris Vike,
ils ont couru un peu tous pour eux. Mais enfin, ils ont couru comme tu dis.
Ouais,
mais enfin,
Chris Vike, il a pas fait le boulot pour Roglic aussi. Hein. Il a joué sa carte.
Et puis Gesink a aussi roulé parce que il y avait des choses qui étaient, enfin des places d'honneur qui étaient en danger. Du coup,
c'est le seul qui a roulé pour son équipe et qui a énormément bouché de temps.
Bah, Gesink, ils peuvent dire merci à Gesink. Hein.
Oui. Ça a été le 9e équipé de la Sky. Sur ce coup-là, aujourd'hui, effectivement.
Donc, c'est un nouveau type de vainqueur. Enfin, ça me rappelle plus des Indy Run comme vainqueur que des. Bon, évidemment,
pas des Indy. Philippe. Ouais, mais il faut attendre dans les prochaines années, là, Bernal, là, s'il reste pas chez la Sky.
Les années passées, qui gagnait le tour?
Mais bon, avant, c'était un profil grimpeur qui perdait pas trop de temps dans les contre-la-montre. Maintenant, c'est des mecs qui écrasent les contre-la-montre.
Ouais, après, des grimpeurs, des profils de purs grimpeurs qui ont gagné récemment le Tour de France, on n'a pas 150 000 non plus.
T'as eu
Pantani, mais enfin bon, ça commence déjà à faire 20 ans. Tu prends Vincenzo Nibali, si tu veux, c'est quand même pas... c'est un très bon grimpeur, mais c'est pas le meilleur, certainement pas le pur grimpeur, en tout cas.
Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est des mecs, Geraint Thomas, il va gagner le tour, c'est des pistards. Il y a des photos de lui il y a quelques années. Le gars, on va dire, il est enrobé.
Oui.
Et maintenant, les mecs, c'est des squelettes. Et ils ont une puissance. Ils ont gardé leur puissance. Ça pose question.
Mais pourquoi ça pose question? Pourquoi ça pose question?
Il a gardé des watts comme ça.
Bah, tu peux transformer ton profil physique, non?
Ah ouais.
A priori, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de piste dit que c'est tout à fait faisable.
Et qu'en
France, on n'en profite pas assez. Quand on a le moteur sur la piste, forcément, en perdant un peu de poids, après, il faut le faire intelligemment. et être bien entraîné, on doit pouvoir se transformer. Après, c'est pas, attention, il y a pistard et pistard, c'est la poursuite.
Après, on voit plein de vététistes aussi arriver dans le vélo sur route, alors oui, peut-être que les profils sont non mais effectivement, mais ça existe effectivement de faire la bascule. Bon, je sais pas si Philippe nous a raccroché au nez ou si
Philippe,
oui, je sais pas, non mais je pense pas qu'il nous a raccroché au nez, je pense qu'il a plutôt eu un souci avec son téléphone.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de pistard, Philippe, bien sûr, on voit le pistard, le sprinteur, c'est pas un sprinteur, c'est pas des sprinteurs, c'est des poursuiteurs, les gars. Ouais. Donc l'effort du chrono, ils savent le faire, et forcément en prenant de la caisse dans les cols et en montagne, et ben ils sont parfaits.
Lucho Bourgui, un Philippe peut en cacher un autre. Nous allons à Cannes dans les Alpes-Maritimes. Salut Philippe.
Et bonsoir, et voilà, maintenant vous êtes à Cannes, vous avez vu, vous avez fait un grand saut.
C'est extraordinaire.
Et tu voyages, Philippe.
Ah, ouais. Oui, je voyage, oui.
Alors
moi, je
suis
Philippe de la semaine dernière qui vous disait, qui parlait un petit peu à la suite de la prise du maillot jaune de Thomas. Oui. Et on discutait un petit peu de la position de la Sky. Moi, j'avais deux questions pour vous, j'espère que ce soir vous ferez preuve d'un discours sans langue de bois. La première, c'est sur la Sky. Ça fait des années. La première, c'était Bradley Wiggins. Ils ont fait gagner Bradley Wiggins. Mm-hmm. Ils ont préparé Froome. Derrière, arrive l'air Froome, qui écrase le Tour pendant 4 ans. Là, on sait ce qui s'est passé, vu la réaction du public, de toute façon, que l'on voit tous les jours sur le Tour. On a l'impression qu'on le met de côté. Et comme par enchantement, on fait jaillir devant l'écran Thomas, 32 balais, qui a jamais fait mieux que 15e au Tour de France.
En roulant pour ses leaders.
Et là, il paraît. Hein?
En roulant pour ses leaders. Il peut pas être placé au général.
On est d'accord. Mais bon. Et on va dire que il crevait pas l'écran. Et là, il paraît intouchable. Il répond à toutes les attaques. Il a gagné des étapes. Bon, clairement, cette semaine, on va dire le leadership a changé comme c'était prévisible. Et Froome s'est rangé derrière. Aujourd'hui, Froome, bientôt, a fait preuve de défaillance, comme il y a deux jours, comme un coureur de seconde zone.
Philippe, je vais t'encourager à poser ta question rapidement, par contre, parce qu'on va être pris par le temps.
Donc, je sais pas, mais c'est si facile que ça de faire sortir un coureur et de faire gagner le Tour.
Ben, a priori, la Sky, ils ont trouvé la solution.
Je sais pas, ils ont Merlin l'Enchanteur, ils ont des bidons magiques.
Je sais pas, mais en tous les cas, ils ont la solution, puisque depuis Wiggins a été chassé par Froome et qui est chassé par Thomas. Oui, voilà. Bon, après, excusez-moi, mais ils ont la solution. Je ne sais pas quelle est cette solution, sinon je la mettrai en place.
Merci en tout cas à Philippe d'avoir fait le 32-16. Belle soirée à toi, tu reviens quand tu veux.
Philippe.
Voilà.
Merci.
Bonne soirée à Cannes dans les Alpes-Maritimes. Messieurs, Lucho Bourgui, je vais être obligé de vous laisser tranquille, mais on se retrouve demain, c'est ça?
Tu préfères le foot.
Non, c'est pas que je préfère. Non, en plus c'est faux, tu le sais très bien, Bourgui.
Je sais que tu roules.
Merci Bourgui, merci.
Allez,
Lucho.
Salut.
On se retrouve demain. Donc,
salut Lucho.
On n'a même pas eu le temps de parler du contre-la-montre, mais je vous le donne, ce programme contre-la-montre de 31 km demain au Pays Basque entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette. Ça promet. Et donc, ça sera une grande bataille encore entre Primoz Roglic, notamment Tom Dumoulin, Geraint Thomas et Christopher Froome, les 4 premiers du classement général. Tout petit détour par la Ligue 2. La Ligue 2, Benoît, c'est le championnat de France de foot qui reprend ce soir.
Et un carton pour l'instant, celui de Valenciennes contre la JOCR, les Valenciennois qui après 27 minutes mènent déjà 3-0 avec notamment un doublé de l'attaquant Gaëtan Robail. Autre surprise, Béziers qui mène 1-0 sur la pelouse de Nancy. Béziers qui dispute le premier match de son histoire en deuxième division. Et puis Lens a ouvert le score sur la pelouse d'Orléans 1-0. Un but de l'ancien Orléanais Arthur Gomis.
Allez, tous ces matchs, vous les suivez bien évidemment sur RMC. Dans un instant, on va également se projeter vers le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie sur le Hungaroring. Ce sera dimanche. On a de belles choses à vous dire là-dessus. On sera avec notre envoyé spécial dans un instant, Lucas Villon. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Tour sur RMC. Sachez que Primoz Roglic s'est imposé aujourd'hui lors de la 19e étape, 200 500 km, entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et La Reims dans les Pyrénées-Atlantiques, en passant par les mythiques Col d'Aspin, Col du Tourmalet, Col du Soulor et Col d'Aubisque. Belle victoire de Primoz Roglic, 19 secondes d'avance sur Geraint Thomas et sur Romain Bardet. Geraint Thomas qui conserve son maillot jaune de leader du classement général. Il devance de plus de 2 minutes le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro en 2017, et et de également donc troisième de ce classement et qui complète donc le podium, le Slovène Primoz Roglic qui ship cette troisième place à Christopher Froome. Avant de partir sur la F1 et avant également d'évoquer toutes vos infos mercato à partir de 20h45, on va faire un tour justement sur nos terrains de football. La première journée de Ligue 2, 8 rencontres se déroulent depuis 20h. Benoît Boutron, où en est-on?
Et on vous rappelle ce score fleuve en faveur de Valenciennes contre la JOCR, 3-0 pour les Valenciennois, toujours 1-0 pour Lens à Orléans, 1-0 également pour Béziers, le promu sur la pelouse de Nancy, et à l'instant le Paris FC qui vient d'ouvrir le score sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, 1-0 donc pour les Parisiens. Les autres rencontres, je vous les rappelle, 0-0 partout entre le Red Star et Niort, entre Clermont et Châteauroux, entre l'AC Ajaccio et Troyes.
Tiens, sachez également, puisqu'on parle de football, que c'est officiel, les Girondins de Bordeaux sont vendus pour 80 millions d'euros à un consortium américain, General American Partners, après 19 ans entre les mains du groupe M6. Voilà, donc il reste encore quelques détails à formaliser, mais la cession sera effective à partir du mois d'octobre. Et cette information qui nous est parvenue vers 18h met fin effectivement à plusieurs semaines, plusieurs mois d'atermoiement. Tout de suite, on part en Hongrie.
RMC, les experts F1.
La 12e manche du championnat du monde de Formule 1, c'est ce week-end, donc en Hongrie, à vivre évidemment comme d'habitude sur RMC, la radio de la Formule 1. Notre envoyé spécial à Budapest, Lucas Vinoy, est là. Salut Lucas!
Salut Arnaud, salut à tous.
On rappelle bien sûr le classement des pilotes dominé par l'anglais Lewis Hamilton sur Mercedes, 17 points d'avance sur Sébastien Vettel, l'allemand sur sa Ferrari. Juste avant d'aborder l'aspect purement sportif, d'abord l'histoire du week-end, c'est assez incroyable. Elle concerne Pierre Gasly, le pilote normand qui doit perdre du poids et vite, c'est ça Lucas?
Ouais, et pourtant il est pas gros hein, Pierre Gasly, 73 kilos avec sa combinaison, 68 pardon sans la combinaison. En fait, le problème de Pierre Gasly, c'est que Toro Rosso essaye d'apporter de nouvelles pièces, puisqu'on le sait, le moteur Honda ne fonctionne pas très très bien. Le problème, c'est que ces pièces, elles sont trop lourdes. Donc pour l'instant, on ne parvient pas à les alléger du côté de Toro Rosso. Donc on demande à Pierre Gasly de perdre du poids. Le problème, c'est que c'est compliqué quand vous faites 73 kilos de perdre du poids pour 1m77. Il y a un poids minimum hein, qui est exigé par la FIA, et forcément le but c'est de s'en rapprocher pour ne pas perdre du temps. Donc voilà, Pierre Gasly doit trouver des solutions, il est à la diète et forcément ce n'est pas toujours agréable.
On va l'écouter justement, Pierre Gasly, le pilote de l'écurie Toro Rosso.
En ce moment je suis en diète à mort parce que on a la voiture qui est assez lourde. Là on a eu des nouvelles pièces sur la voiture qui sont 3 kilos au-dessus et ça fait que je suis 5 kilos au-dessus du poids, donc je perds un dixième et demi au tour rien qu'avec le poids là en ce moment. C'est super super strict sur tout ce que tu manges, éviter tout ce qui est sucré, de l'eau 7 jours sur 7 et rien d'autre, pas de soda, rien du tout. Donc non, c'est assez strict.
Assez strict, assez contraignant, on l'a compris, donc pour Pierre Gasly. Tiens, c'est la dernière avant les vacances, avant cette trêve de près d'un mois traditionnelle au mois d'août pour les pilotes, Lucas.
Ouais, c'est ça. Tout le monde a envie de partir en vacances. Là, on sent les mines sont fatiguées ici en Hongrie. Il y a eu beaucoup de grands prix, il y a eu beaucoup de back-to-back, donc deux grands prix qui se sont enchaînés. À un moment, même trois grands prix qui se sont enchaînés. C'était la première fois dans l'histoire de la Formule 1. Donc tout le monde a envie de partir en vacances. Et puis entre les pilotes, on discute. Où est-ce que tu vas toi? Où est-ce que moi je vais partir de ce côté-là, plutôt à Bali, etc. Donc voilà, on sent que les vacances arrivent. Elles arrivent à point nommé pour toutes les écuries. D'ailleurs, il y a quelques pilotes français qui vont partir, notamment Charles Leclerc, qui partira du côté de Bali.
Alors lui c'est le monégasque, mais tiens, on va écouter Esteban Ocon d'abord justement. Que va-t-il faire pendant ses vacances?
Je m'entraîne un petit peu beaucoup, parce que bon, je pars en vacances certes la première semaine, mais l'autre c'est dans les Pyrénées en altitude. Comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes, donc c'est sûr qu'on coupe ce qui est important pour revenir plus fort, mais après l'entraînement et on reprend.
Les bonnes habitudes également pour Romain Grosjean, le pilote de l'écurie As.
Je m'entraîne, j'ai quelques rendez-vous, un triathlon et puis 10 jours en vacances, loin de tout où j'irai à l'envie. Si j'ai envie de m'entraîner, je m'entraînerai, et si j'ai envie de rien faire, je m'octroierai le droit de rien faire.
Et Pierre Gasly, on va le entendre, le pilote de l'écurie Toro Rosso, lui aussi nous raconte ce qu'il va faire pendant ses vacances.
On est obligé de s'entraîner, donc je vais avoir la première semaine un peu plus cool où je vais quand même devoir m'entraîner, mais pas non plus aussi dur que sur les deux autres semaines. Puis après, je le passe avec ma famille, ma copine, mes amis proches. Donc je vais faire une semaine avec chaque, plus ou moins. Je vais partir un peu à l'étranger, en Grèce, et après le reste je le ferai en France. avec mes amis.
Bon, voilà, plus ou moins studieux, plus ou moins sérieux selon les pilotes et selon le moment justement de cette trêve. Un mot du circuit de ce Grand Prix de Hongrie, Lucas. C'est un circuit quand même assez particulier. C'est le Hungaroring. Il est surnommé le tourniquet hongrois. Les pilotes l'adorent, hein, véritablement.
Ouais, c'est un des circuits favoris des pilotes au calendrier avec Suzuka et avec Singapour. C'est vrai qu'il est particulier parce que on n'a pas de moment de répit sur cette piste. On a une ligne droite des stands comme sur l'ensemble des circuits, mais elle est assez courte hein, avec la vitesse aujourd'hui des monoplaces en Formule 1. Là, elle dure à peine 10 secondes cette ligne droite, et après derrière c'est un enchaînement de virages incessant. Le rythme est toujours présent, on ne peut jamais quasiment en fait se reposer, et forcément ça rappelle un petit peu les pistes de karting où pareil, il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Toujours des virages, c'est la raison pour laquelle les pilotes adorent, parce qu'ils peuvent faire ici la différence grâce à leur coup de volant.
Ah ben justement, tu leur as demandé notamment aux pilotes français pourquoi ils aimaient tant ce circuit. On va écouter Romain Grosjean.
C'est un circuit, en fait, on a très peu de lignes droites et beaucoup de virages sur un kilométrage court. Voilà pourquoi en fait on appelle un tourniquet. C'est pas comme Hockenheim où il y avait 6 ou 7 virages sur 4,6 km. Là il y en a 14 vrais sur 4,3 km. Donc voilà, on a très peu de lignes droites. Et du coup sur le week-end de course, les pneus ont pas beaucoup de facilité parce que on sort d'un virage pour en attaquer un autre. Donc la charge qui va à travers les pneus est difficile. Et en plus en général il fait chaud, donc il y a un gros management à faire sur les gommes.
Et ce qu'aime avant tout évidemment Pierre Gasly dans ce circuit, c'est son rythme. On l'écoute.
Ça ressemble, on va dire, à une piste de kart. Les lignes droites sont vraiment courtes. C'est sans cesse en train de tourner, en fait. Il y a énormément de rythme sur tout le circuit. La seule ligne droite qu'il y a, elle est assez courte. Donc, en fait, ça rajoute, on va dire, que l'impact des virages a beaucoup plus d'importance sur le temps autour que sur d'autres pistes.
Alors, les enjeux plus généralement sportifs de ce week-end, Lucas Vinon, envoyé spécial en Hongrie, donc pour ce Grand Prix de Formule 1 qui aura lieu dimanche. Au classement, Mercedes domine, hein, au classement des écuries. Hamilton est devant chez les pilotes. Et Ferrari doit se rattraper un petit peu après un Grand Prix assez compliqué du côté d'Hockenheim. Hein.
Ouais, c'est nécessaire, hein, surtout après la débâcle, hein, comme tu le dis, d'Hockenheim. Tout se passait bien en fait à Hockenheim pour Ferrari. La pole position, Hamilton qui partait en 14e position, et puis le ciel leur est tombé sur la tête avec l'abandon de Sebastian Vettel et la victoire inattendue, bien évidemment, des Lewis Hamilton, qui a permis en fait aux Britanniques de reprendre la tête du championnat. Le problème pour Ferrari, c'est qu'ils sont plus rapides pour l'instant, ils sont meilleurs sur quasiment tous les points, mais ils n'arrivent pas à creuser l'écart avec Lewis Hamilton et avec Mercedes. Alors en plus, vous le savez, il y a eu le décès de Sergio Marchionne, le PDG de Fiat, qui avait permis à Ferrari de retrouver des couleurs. Donc nul doute que ce week-end, en tout cas, chez la Scuderia Ferrari, on va tout faire pour pouvoir gagner et rendre hommage à son ancien président.
Un mot côté français de Romain Grosjean, Lucas, qui va mieux, hein, très clairement sur sa voiture. Il doit encore confirmer ce week-end pour espérer, pourquoi pas, conserver son baquet. Hein.
Oui, s'il fait un bon résultat ce week-end en Hongrie, ça devrait suffire pour Romain Grosjean. Les bonnes performances des dernières semaines sont en train de prendre le pas sur ces petites boulettes du début d'année. On se rappelle, hein, c'était du côté de Bakou en Azerbaïdjan, mais aussi à Silverstone ou encore en Espagne. Romain Grosjean qui a terminé 4e en Autriche, 6e en Allemagne. Il a toujours été rapide, le pilote français, mais là il a tendance à être un petit peu plus régulier et surtout à terminer devant son coéquipier Kevin Magnussen. On sait que c'est toujours extrêmement important en Formule 1 de terminer devant son coéquipier. Il l'a rattrapé un petit peu au niveau du classement. Il est 13e, Romain Grosjean. Magnussen est 9e. Il n'y a que 19 points d'écart. Il peut refaire son retard. Et bien évidemment, ce serait une bonne opportunité ce week-end encore, hein, de marquer beaucoup de points pour se montrer devant Günther Steiner et essayer de renégocier un contrat. Puisqu'on le rappelle, Romain Grosjean est en fin de contrat à la fin de saison.
Alors on le disait, Lucas, il va y avoir une trêve qui va être propice également aux tractations, on va dire, entre pilotes et écurie, qu'est-ce que ça peut donner justement au niveau des transferts par rapport à la saison prochaine ?
Ça va beaucoup bouger. On va commencer par Esteban Ocon qui devrait rejoindre l'écurie au Los Angeles Renault. Esteban Ocon qui devrait remplacer Carlos Sainz. En fait, la clé de voûte des transferts, c'est Daniel Ricciardo. On ne sait pas encore ce que va faire Daniel Ricciardo. Il devrait normalement rester chez Red Bull. Sainz pourrait trouver refuge chez McLaren. Du côté de Ferrari, Leclerc devrait remplacer Kimi Raikkonen. Mais que va-t-il faire, Kimi Raikkonen ? Est-ce qu'il va prendre sa retraite ? On le rappelle, il a 38 ans, ou est-ce qu'il va prendre la place place de Leclerc chez Sauber. On se pose aussi la question du côté d'Alonso. Est-ce qu'il va partir en IndyCar aux États-Unis ou est-ce qu'il va continuer à rester en Formule 1 alors qu'il ne joue quasiment plus rien, le double champion du monde? On se pose donc beaucoup de questions, mais en tout cas Ocon va rejoindre normalement Renault. C'est quasiment Toto Wolff qui l'a confirmé tout à l'heure en conférence de presse, et Pierre Gasly lui restera chez Toro Rosso.
Allez, un petit mot du programme donc du week-end, Lucas, pour ce Grand Prix de Hongrie, avec des essais libres aujourd'hui, des qualifs demain, c'est ça hein?
C'est ça, les qualifications demain à 15h qui vont être très intéressantes. Il va faire très chaud sur le circuit de Hungaroring, hein, qui ça devrait un petit peu niveler les performances. Et puis la course, bien évidemment, dimanche, la dernière avant les vacances. Tout le monde va essayer de partir sur une bonne note. Le départ, ce sera à 15h10.
Et on te retrouvera tout au long du week-end, Lucas Vinois. Merci.
Merci.
Et on continue avec le football, avec la Ligue 2, la première journée. 8 rencontres ce soir. Benoît, où en est-on sur tous les terrains?
Et un nouveau but vient d'être inscrit à l'instant. C'est 3 qui ouvrent le score sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Un but signé Johan Tousgar, la recrue troyenne de l'été. Toujours 1-0 pour Lens à Orléans. 1-0 également pour le Paris FC sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. 3-0 pour Valenciennes contre la JOCR. 1-0 pour Béziers à Nancy. Et 0-0 toujours entre Grenoble et Sochaux, entre Clermont et Châteauroux et entre le Red Star.
Allez, je vous rappelle le résultat aujourd'hui de la 19e étape du Tour de France entre Lourdes et la Reims, 200 500 km à travers la montagne, à travers les Pyrénées, notamment les Hautes-Pyrénées, le col d'Aspin, le col du Tourmalet, le col du Soulor et le col d'Aubis. C'est Primoz Roglic qui s'est imposé devant Geraint Thomas, Romain Bardet, Dan Martin, Raphaël Maquette, Tom Dumoulin, Mikel Landa, Christopher Froome et Kreuzweg. Et puis au classement général, eh bien, quelques petits changements, non pas sur en ce qui concerne le maillot jaune qui est toujours sur les épaules de Geraint Thomas ce soir. Il possède 2 minutes 05 d'avance sur Tom Dumoulin, le néerlandais de l'équipe Sunweb. En revanche, un nouveau coureur est troisième ce soir. Ça n'est plus Christopher Froome qui descend la quatrième place, mais Primoz Roglic, donc le vainqueur de l'étape du jour, qui a profité de quelques secondes d'avance à l'arrivée et de bonification pour s'emparer donc de cette troisième place du classement général. Romain Bardet lui profite de la grosse défaillance aujourd'hui de Nairo Quintana pour remonter à la septième place du classement général. Il est à 5 minutes 15 concernant le maillot à poids. Cette fois-ci, c'est fait, c'est terminé. Il sera sur les épaules de Julien Alaphilippe, le Français sur les Champs-Élysées. Ce sera dimanche. Le maillot vert, a priori, ne devrait pas échapper à Peter Sagan, le Slovaque. Et puis le maillot blanc, lui, sera sur les épaules de Pierre Latour, a priori, le coéquipier de Romain Bardet et jeune rouleur de l'équipe AG2R, la mondiale 13e du classement général et donc meilleur jeune de ce Tour de France. 20h43, l'intégral tour revient dans un instant. La suite et la fin des premières périodes sur les terrains de Ligue 2. Le mercato également, avec toutes les infos à retenir du jour. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Allez, l'Intégral Tour continue dans un quart d'heure. C'est l'équipe de l'After qui débarque. L'Intégral Tour qui reviendra demain, évidemment, à partir de 14h pour vous faire vivre ce contre-la-montre du Tour de France de veille d'arrivée. Ce sera entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette, au cœur du Pays Basque. 31 km réservés aux purs rouleurs. C'est toujours Geraint Thomas, justement, qui est devant au classement général. Donc devant Tom Dumoulin et Primoz Roglic. Eux aussi, de grands rouleurs. En détour par le terrain de Ligue 2, avec toujours Lens qui mène du côté de l'US Orléans pour la première journée de Ligue 2, Benoît.
1-0 effectivement, et un but qui vient d'être inscrit, c'est la réduction de l'écart d'Auxerre à Valenciennes. 3-1 désormais pour les Valenciennois face à la JOCR. Le but inscrit contre son camp par le défenseur valenciennois Baptiste Alloé. On vous rappelle les scores sur les autres rencontres. 3 qui mène 1-0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio. 1-0 pour le Paris FC sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. 1-0 pour Béziers, le promu, sur la pelouse de Nancy. Et pour l'instant 0-0 entre le Red Star Aignan, entre Clermont et Châteauroux, et entre Grenoble et Sochaux.
Alors Benoît, on va quand même rappeler hein, ce qu'est cette Ligue 2. Cette saison, on garde exactement le même format que la saison dernière.
Hein. Exactement, avec 20 clubs au départ et ce système de barrage qui concerne donc le top 5 de cette Ligue 2. Les deux premiers vont monter directement en Ligue 1 et ensuite, il y aura donc un barrage, tout d'abord entre le 4e et le 5e. Sur la pelouse du 4e, le vainqueur de ce match aura la chance d'affronter le 3e sur la pelouse du 3e, et le vainqueur de cette rencontre ira disputer le barrage Ligue 1-Ligue 2 contre le 18e de Ligue 1 avec match retour sur la pelouse du club de Ligue 1.
Et on se souvient notamment que la saison dernière, Le Havre avait battu Brest avant de perdre à Ajaccio dans des conditions un petit peu particulières au tir au but. Ça avait donné notamment un match aller de barrage entre Ajaccio et Toulouse, disputé sur terrain neutre du côté de la Mosson, sur terrain neutre non seulement et en plus à huis clos. Il y aura aura 5 nouveaux cette saison, Benoît, dans ce championnat.
Et oui, les deux clubs relégués, 3 et le FC Metz, hein, d'ailleurs 3 qui mènent pour l'instant 1-0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Metz qui jouera lundi, ce sera du côté de Brest. Il y a également les promus de National, il y a 3 clubs promus. Le Red Star qui a terminé champion, Béziers qui a terminé deuxième, qui découvre la Ligue 2. Et Grenoble, Grenoble qui a gagné son barrage contre Bourg-en-Bresse. Grenoble qui pour l'instant fait 0-0 contre Sochaux. Effectivement, on pourra parler de cette équipe grenobloise qui a signé 2 montées consécutives, mais qui a tout de même changé de coach cet été.
Alors pas mal de bouleversements, notamment chez les entraîneurs, Benoît.
Et justement, ouais, Olivier Guégan, qui était le coach à Grenoble, a été remplacé par Philippe Insberger. On a changé à 3 également avec l'arrivée de Rui Almeida à la place de Jean-Louis Garcia. Metz qui a choisi Frédéric Antonetti pour tenter de retrouver l'élite. Philippe Montagnier, lui, est arrivé à Lens. D'ailleurs, ça se passe bien pour Lens qui mène 1-0 sur la pelouse de l'US Orléans. Et puis à Niort, on a fait confiance à Patrice Lair qui vient des féminines du PSG. On l'a longtemps connu chez les filles. Il débarque à Niort. Enfin, dernier changement, le départ de Mercadal. Il est parti du Paris FC pour aller entraîner Caen. Du coup, il est remplacé par le Bosnien Mesha Bazdarević.
Tu parlais de Lens qui va pouvoir repartir au vestiaire dans quelques instants à la mi-temps de son match face à l'US Orléans. Ça fait partie des favoris, justement, cette équipe de Lens. Hein.
Et oui, Lens, c'est le plus gros budget de la Ligue 2. Un recrutement intelligent avec Yannick Gomis qui a marqué d'ailleurs ce soir pour son premier match avec le RC Lens. Jean-Louis Lecal, le gardien de but. Mehdi Tarat, le défenseur central. Une équipe expérimentée à Lens et très costaud. On suivra également des équipes comme Lorient qui n'ont pas le droit de se rater. Lorient, Brest, Metz, 3. Il faudra surveiller tous ces clubs pour la montée en Ligue 1 en mai prochain.
Alors, est-ce que ça va se terminer pour cette première période au stade de la Source, Benoît?
Avec un coup franc à venir pour le RC Lens. On est dans la dernière minute du temps additionnel et c'est frappé, c'est au-dessus. Du coup, l'arbitre qui va certainement siffler la mi-temps de cette rencontre. 1-0 donc pour les Lensois sur la pelouse d'Orléans. Le buteur, c'est Yannick Gomis.
Allez, merci Benoît. On se retrouve dans quelques minutes pour les deuxièmes mi-temps de cette rencontre. Je vous validerai le score à la mi-temps justement entre l'US Orléans et le RC Lens. Voilà, c'est terminé. 1-0 pour le RC Lens, deuxième mi-temps. Ce sera tout à l'heure, 20h50. C'est l'heure du Mercato Show.
RMC, le Mercato Show.
Et Mélanie Ferreira est avec nous ce soir. Salut Mélanie.
Salut Arnaud.
Alors, ça y est, c'est officiel. Golovin a signé à Monaco.
Et oui, l'AS Monaco casse sa tirelire pour s'arracher l'une des révélations de la Coupe du Monde 2018. Le milieu russe de 22 ans, Alexander Golovin, il s'engage pour 5 ans avec le club de la Principauté. On parle d'un transfert autour de 30 millions d'euros et ce n'était pas gagné puisque Chelsea et la Juventus Turin voulaient aussi s'offrir le joueur du CSKA Moscou. Alors du côté de Monaco, évidemment, on est très satisfait de cette signature. Golovin a pris la bonne décision selon Vadim Vasiliev, le président. Pour lui, il a plus de chances de percer à Monaco qu'à Chelsea. Et pour rappel, cette saison, Golovin a disputé 27 matchs dans le championnat russe et inscrit 5 buts.
À voir si le joueur sera aligné, notamment le 4 août prochain lors du trophée des champions à Shenzhen en Chine, face au Paris Saint-Germain. Côté lyonnais, on piste un attaquant brésilien.
Pedro, c'est l'attaquant du club Fluminense à Rio. L'OL se montre très intéressé par ce joueur de 21 ans, selon nos informations. C'est Florian Maurice, le patron du recrutement lyonnais, qui a amorcé cette piste. Le Fluminense demanderait 12 millions d'euros pour son joueur, qui a réalisé une très bonne saison, 9 buts et 2 passes décisives en 13 matchs pour cet attaquant brésilien. Mais a priori, l'OL ne serait pas le seul club français intéressé, puisque selon des médias brésiliens, Pedro serait aussi suivi par les Girondins de Bordeaux.
Charles est avec nous au 32-16, supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Charles.
Oui, bonsoir à tous.
Bon, qu'est-ce que tu penserais de cette venue potentielle de cet attaquant brésilien du côté de Lyon?
Je pense que ça veut dire que Jean-Michel Aulas se prépare surtout à un éventuel départ de Memphis ou de Fekir, voire éventuellement des deux.
Il va même s'il a dit que Fekir resterait à 90%. Hein.
Voilà, mais Memphis, par contre, il s'est pas trop prononcé dessus.
Non, c'est vrai. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles de Depay.
On sait qu'il est un peu versatile. Il a commencé le début de saison avec une semaine de retard. Bon, comme d'habitude, on va dire, ils ont su faire en sorte que l'affaire soit pas trop ébruitée, qu'il n'y ait pas trop de vagues et qu'on n'entende pas trop parler de ça. Mais à voir. Je pense que de toute façon, il s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Un des deux, il arrivera peut-être pas à retenir les deux d'ici jusqu'au 31 août. Il sent qu'il y en a un des deux qui va devoir qui va plier bagages. Et je pense qu'il essaie de se couvrir avec ce jeune joueur-là.
C'est une bonne idée selon toi, justement, ce joueur, ce Pedro, que le grand public ne connaît pas. On va pas se mentir, en France en tout cas.
Bah, une bonne idée. Je pense qu'il faut tenter. Il faut tenter des coups. Quand on voit là maintenant le moindre joueur qui est connu, qui fait quand on a le coach Koubiens, généralement il s'énerve avec ça, mais c'est vrai que le moindre joueur qui fait une passe décisive et un but sur deux matchs, il fait tout de suite 35 millions. Donc faut savoir avoir des idées. Donc moi je trouve que c'est bien. Je regrettais moi quand le club n'en avait pas et qu'ils achetaient 100% français.
Ouais.
Donc là ils essaient de trouver des idées. La filière brésilienne, il y a eu quelques ratés, mais il y a eu quand même
assez rare, années lyonnaises. On va dire.
Voilà, les belles années lyonnaises se sont quand même construites sur la filière brésilienne. Donc faut voir. Je pense que ça vaut le coup de voir. Hein.
On se souvient effectivement des Juninho, Nilmar et autres Fred qui étaient passés par
Chris aussi. Marcelo actuellement.
Chris, oui, effectivement. Cassapa, ouais. Marcelo. Merci Charles d'avoir été avec nous au 32-16 en tout cas.
Il y a pas de quoi.
Et bonne soirée à toi. On continue avec toutes les infos. Mercato, Mélanie, Metz accueille un joueur de Chelsea.
Victorian Angban, milieu défensif ivoirien de 21 ans. Il est prêté un an avec option d'achat par Chelsea, le club anglais qu'il a rejoint en 2015, hein, mais pour qui il n'a pas encore joué le moindre match. La saison passée, il avait été prêté à Beveren en Belgique. Et puis, le FC Metz annonce également la prolongation jusqu'en 2020 de Renaud Coad.
Lucas Digne, réfléchit à quitter le FC Barcelone.
Oui, le défenseur international français est courtisé par Everton. Le club anglais a formulé une offre autour de 20 millions d'euros. Le français de 25 ans hésite encore à quitter le club catalan. Il aimerait bien sûr avoir plus de temps de jeu, surtout après la déception de ne pas avoir été convoqué pour le mondial russe. A priori, les dirigeants du Barça ne devraient pas le retenir. Et puis, la Juventus Turin serait également intéressée, surtout en cas de départ d'Alexandro.
Et on rappelle que Lucas Digne notamment est quand même, sa route est assez barrée, on va dire, sur son poste de latéral par Jordi Alba. Théo Hernandez, proche de la Real Sociedad.
Oui, c'est la très sérieuse radio espagnole Cadena Ser qui évoque la possibilité d'un départ de Théo, le frère de Lucas Hernandez, champion du monde avec la France. Le jeune défenseur du Real Madrid pourrait être prêté au club basque jusqu'à la fin de saison. À 20 ans, le petit frère de Lucas Hernandez a disputé 13 matchs cette saison en Liga sous le maillot du Real. Et selon le média espagnol, les deux clubs auraient déjà trouvé un accord pour le prêt de l'espoir français.
Perisic pourrait remplacer Martial à Manchester United.
C'est une hypothèse évoquée par le journal anglais The Mirror. Perisic pourrait arriver à Manchester si Anthony Martial venait à quitter le club. Selon le média anglais, l'Inter Milan demanderait 60 millions d'euros pour l'international croate.
Un Français rejoint la Sampdoria de Gênes. En Italie.
Grégoire Defrel, l'attaquant de la AS Roma, il est prêté un an avec option à la Sampdoria de Gênes. Il n'a pas réussi à s'imposer à la Roma. Un but seulement en 20 apparitions pour l'attaquant français, victime de nombreuses blessures cette saison.
Lui qui avait réalisé notamment une excellente saison, on s'en souvient, il y a deux ans avec Sassuolo. Ayew à Fenerbahçe en Turquie, c'est officiel.
L'ancien Marseillais a passé ce matin avec succès la visite médicale. Le Ghanéen officiellement prêté avec option d'achat à Fenerbahçe. Le club stambouliote l'a confirmé en début d'après-midi. André Ayew quitte donc Swansea provisoirement six mois après l'avoir rejoint. Il avait signé avec les Gallois à l'hiver dernier en provenance de West Ham. Swansea qui est relégué en championship la saison dernière. Et puis Mathieu Valbuena s'est félicité de l'arrivée à Fenerbahçe de son ancien coéquipier à l'Olympique de Marseille.
Merci Mélanie Ferreira pour toutes ces infos mercato que vous retrouvez sur notre site rmcsport.fr à 20h57 tout pile. Il est l'heure de passer la main à toute l'équipe de l'After. Christophe Plenet est là. Salut Christophe.
Salut Arnaud, salut à tous. Tout va bien ?
Oui, tout va bien. Et toi aussi, j'imagine.
Oh oui, grave, on est bien chaud. Oui, au programme de l'After ce soir, Bordeaux et M6 qui est entré en négociation exclusive avec un fonds américain concernant la vente du club. La première journée de Ligue 2, un grand débat sur les Verts de Saint-Etienne, les avis tranchés de Samuel Hippoix et de François Manardo. Le Mercato Show, plein de surprises, plein de cadeaux à gagner. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC. On compte sur vous pour un nouvel opus de l'After. À tout de suite sur RMC.